Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. En Irak, deux Français coupables d'avoir rejoint les rangs de l'État islamique condamnés à mort ce matin au terme d'une audience de moins d'une heure. En tout, neuf Français sont à ce stade condamnés à la pendaison en Irak. Mathématiciens, sociologues, historiens, académiciens, analystes percutants des évolutions de notre temps, c'était Michel Serres, mort hier à 88 ans. Avec Isabelle Pasquier, nous reviendrons sur le parcours de ce philosophe qui savait se faire comprendre par le plus grand nombre. Le droit de suite, comme chaque dimanche, aujourd'hui, la disparition du vol Air France 447 Rio-Paris, il y a 10 ans, 228 morts de 34 nationalités. Toujours beaucoup de questions sans réponse sur les causes de cette catastrophe. Y aura-t-il un procès? Nous interrogerons l'avocat de plusieurs familles de victimes, maître Alain Jakubowicz. Neymar, accusé de viol par une jeune femme au Brésil, les faits se seraient déroulés à Paris mi-mai. Neymar clame son innocence et dénonce un piège. Le tennis à Roland-Garros, Federer face à l'Argentin Maillère, ça commence dans quelques instants. Et puis à suivre plus tard dans la journée, Benoît Paire qui tentera d'avoir une place en quart de finale face au Japonais Nishikori. Et puis le départ de la solitaire du Figaro cet après-midi au large de Pornichet. 47 skippers pour 4 étapes pendant lesquelles il faut savoir récupérer.
France Inter.
En Irak, ces derniers jours, 7 djihadistes français ont été condamnés à mort par un tribunal antiterroriste à Bagdad. Ils ont été reconnus coupables d'avoir rejoint les rangs de l'État islamique. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a parlé mercredi à l'Assemblée nationale de procès équitable, ce qui a provoqué l'indignation de nombreuses ONG. Ce matin, les procès continuent à Bagdad. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Et deux nouvelles condamnations à mort ont été prononcées.
Oui, le premier d'entre eux s'appelle Fodil Tahar Aouida, 32 ans. Il a été reconnu coupable d'appartenance au groupe État islamique. Le tribunal a rejeté les allégations selon lesquelles ses aveux auraient été obtenus sous la torture. Le second condamné à mort est un Français d'origine algérienne, Vianney Ouraghi, 28 ans. Lui a reconnu devant le juge avoir travaillé pour Daesh, mais affirme ne pas avoir participé au combat, ni en Syrie, ni en Irak. Ces deux djihadistes font partie d'un groupe de 14 ressortissants français qui avaient été transférés en Irak depuis la Syrie, où ils avaient été capturés par les forces arabo-kurdes au moment de la chute des derniers villages contrôlés par Daesh. Les avocats de la défense et les ONG dénoncent un système judiciaire irakien abusif et expéditif. De son côté, le Quai d'Orsay souligne que les ressortissants français sont jugés dans le cadre de procès équitables et bénéficient de la protection consulaire de l'ambassade de France. La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a réaffirmé ce matin que la France intervenait au plus haut niveau pour commuer ces condamnations en peine de prison. Les deux djihadistes français jugés ce matin ont un mois pour faire appel de leur jugement.
Nabil Boudi est avocat au barreau de Paris. Il défend plusieurs de ces djihadistes français jugés en Irak. Il veut aller à Bagdad pour rencontrer ses clients et faire appel de leur condamnation. Sur France Info, il dénonce ce qui n'est à ses yeux qu'une parodie de justice.
En matière criminelle, une enquête dure en moyenne en France, dans n'importe quel pays occidental, standard européen, 3 ans. Ces Français ont été transférés de la Syrie vers l'Irak avec l'aval de la France il y a 3 mois. L'enquête a duré 3 mois. La première semaine de procès, donc concernant nos clients, leur audience a duré 10 minutes. Donc c'est une audience qui a duré 10 minutes, qui a accouché d'une condamnation à la peine de mort. Nous, l'idée, c'est de s'opposer à la peine de mort. Donc il est important pour nous et pour les familles de se rendre sur place et le dire fermement aux autorités irakiennes, d'une part. De deux, nous savons que la France a voulu, a mis en place avec ses homologues irakiens, ce procès pour qu'il se passe le plus rapidement possible, pour qu'il y ait le moins de lumière possible. Donc l'idée, c'est de se rendre et de dire non à la peine de mort, d'assurer une défense et surtout d'aller observer comment se déroule ce procès.
Maître Nabil Boudi au micro de Matteo Maestrachi. À l'instant, en Algérie, la Cour constitutionnelle annonce que la présidentielle est impossible à organiser le 4 juillet. Cette haute juridiction, donc la Cour constitutionnelle, ne donne pas de date pour la tenue d'un scrutin un peu plus tard. Israël a mené aujourd'hui de nouvelles frappes en Syrie qui ont fait 10 morts parmi les forces du régime de Damas. C'est la deuxième attaque israélienne en Syrie en moins d'une semaine. Les hommages sont nombreux en ce dimanche au lendemain de la mort du philosophe Michel Serres. Il avait 88 ans, politique, intellectuel et artiste salue son savoir immense, sa chaleur, son humanisme. En 1990, il est élu à l'Académie française où il est reçu l'année suivante sans la traditionnelle épée en signe de paix. On était en pleine guerre du Golfe. C'était un passionné d'éducation, d'écologie, apprécié pour son goût de la jeunesse et son optimisme. Isabelle Pasquier, bonjour.
Bonjour.
Michel Serres s'intéressait à toutes les formes du savoir.
Michel Serres, on peut dire que c'était un esprit de la Renaissance, version 21e siècle, une pensée vive, totalement libre, incarnée. Il avait la volonté de faire se féconder la science, la philosophie, la sociologie, l'histoire, la poésie, la littérature, vous l'avez dit, l'écologie, l'éducation. Il était donc très loin des lamentations prophétiques de certains intellectuels. Ancien officier de la marine, il regardait toujours au loin l'horizon, le futur. Le 30 décembre 2016, sur France Inter, aux côtés de Claire Sarvajan, il dialoguait avec le navigateur Thomas Coville, qui venait d'ailleurs de battre le record du Tour du Monde à la voile en multicoque, un dialogue qui avait beaucoup ému le philosophe.
J'avais emmené les chroniques de Michel Serres. Vous faites partie de ce Tour du Monde, monsieur. Vous êtes une des personnes qui, depuis mon adolescence, avec mes parents, m'ont inspiré.
Merci beaucoup de parler comme ça. Vous allez me tirer des larmes, mon cher. Aujourd'hui, c'est moi qui vous dois l'admiration, absolument. Si j'ai pu vous accompagner dans cette aventure, je suis vraiment très touché de ce que vous dites, mais très bouleversé. Vous avez fait non seulement ma journée, mais vous avez fait peut-être mon année. Là, merci beaucoup. D'autant plus que je vous parle d'un marin à un autre marin. Vous avez fait quand même rêver, vous aussi, la France entière, et moi en particulier.
Dans son essai « C'était mieux avant », Michel Serres fustigeait les grands papas ronchons. Il se passionnait pour les mutations du monde contemporain, en particulier les nouvelles technologies. Son best-seller « Petite poussette », vendu à 270 000 exemplaires, prouve sa capacité à partager son savoir. « Ce qui m'intéresse, c'est l'accouchement du monde qui vient », disait ce visionnaire au regard très malicieux. Michel Serres était un humaniste qui, par la lumière de son savoir, éclairait beaucoup les ténèbres et la complexité de notre monde. Un homme, une pensée qui nous protégeait un peu du désenchantement.
Et Emmanuel Macron rend hommage ce matin dans un communiqué co-signé avec son épouse Brigitte Macron à Michel Serres. Il salue un visage familier qui sut mettre son érudition au service de tous. Les blessés des manifestations des Gilets jaunes organisent aujourd'hui à Paris une marche qu'ils appellent la marche des mutilés pour l'exemple. Ils dénoncent les violences policières. Certains ont perdu un œil, une main et demandent l'interdiction des lanceurs de balles de défense et autres grenades utilisées par les policiers et les gendarmes. Cette marche a commencé ce matin place de la Bastille avant de rejoindre plus tard la place de la Nation. Sur place, on retrouve en direct Justine Leclerc. Bonjour Justine.
Bonjour. Et donc ces Gilets jaunes défilent en tête de cortège, les Gilets jaunes blessés derrière une longue banderole de plusieurs mètres où l'on peut lire « Vérité et justice pour les blessés, interdiction des grenades et des LBD ». Les mutilés, pour l'exemple comme ils se prénomment, ont pris la parole un par un pour énumérer leurs blessures.
J'ai pris un tir de LBD en pleine face.
J'ai pris un tir de LBD dans l'œil. Il est perdu.
J'ai pris un tir de LBD dans l'œil, dans la joue et j'ai tout perdu.
Parmi les Gilets jaunes blessés, Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement contestataire.
Le message, c'est de se rappeler au bon souvenir des médias, se rappeler au bon souvenir du gouvernement et faire réagir l'opinion publique face aux conséquences des violences policières et gouvernementales exercées sur les manifestants aujourd'hui.
Les mesures concrètes que vous réclamez aujourd'hui ?
La fin du LBD, arme de terreur politique, la fin des grenades. Et qu'on cesse avec les mutilations et qu'on revienne à une doctrine du maintien de l'ordre qui a toujours été en France et qui n'est plus respectée aujourd'hui. Et que ces gentils cow-boys de la BAC rentrent chez eux, qu'ils aillent faire leur travail, à défaut de faire les cow-boys et de mutiler les gens.
Les quelques 300 gilets jaunes blessés et leur soutien sont partis de la place de la Bastille. Et voilà ce que l'on entend dans le cortège.
Mutilation ! Stop ! Stop ! Mutilation ! Stop ! Stop !
Voilà, fin de la manifestation des gilets jaunes et de leur soutien prévu vers 15h, place de la Nation.
Reportage de Justine Leclerc avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau. Le droit de suite, comme chaque dimanche dans ce journal, il y a 10 ans, le 1er juin 2009, la disparition du vol Air France Rio-Paris. 228 morts de 34 nationalités. Une cinquantaine de corps ont été retrouvés en 2009, mais l'épave de l'avion ne sera localisée que 2 ans plus tard, le 2 avril 2011. Rémi Brancato a rencontré Danielle Lamy, la présidente d'une association de familles de victime du vol Air France 400-447. Elle a perdu son fils dans la catastrophe.
Daniel Lamy nous reçoit dans le petit appartement parisien qu'elle a gardé avec son mari chaque jour, ou presque, dit-elle. Elle se souvient de ce 1er juin 2009. Leur fils, Eric, 37 ans, n'est jamais arrivé à l'aéroport.
On est arrivé à Roissy, c'était la sidération. L'Airbus a disparu, il n'y a plus d'espoir. Et là, voyez-vous, la terre s'ouvre.
Depuis 10 ans, Daniel préside l'association Entraide et Solidarité pour les proches des 228 victimes du vol à F447. Ce week-end, elle reçoit Barbara Crollo, venue de Berlin pour les commémorations.
C'est pas la même chose qu'avant.
Ce 1er juin, Barbara a aussi perdu un fils. Elle est vice-présidente de l'association allemande des proches de victimes.
J'ai chanté pendant toute ma vie et j'ai pas chanté depuis la mort de mon fils et de sa fiancée.
Les deux femmes se battent pour connaître la vérité. On sait que c'est le givre sur des sondes de l'Airbus A330 qui a déréglé les mesures de vitesse et conduit au décrochage. Mais en 10 ans, aucun procès, regrette Daniel.
En juillet 2012, le BEA avait sorti son rapport technique. Nous avait bien expliqué comment ça s'était passé. Le constructeur, c'est Airbus. La compagnie aérienne, c'est Air France. Il me semble absolument normal pour les familles que les deux viennent s'expliquer à la barre d'un tribunal.
Mais selon les avocats des familles, le dernier rapport d'expertise pointe le comportement des pilotes et les deux entreprises demandent un non-lieu.
Je le ressens comme un affront, comme un mépris pour les familles.
Ils le disent, ils ne sont pas responsables pour la chute. C'est une honte.
Elles attendent désormais les réquisitions du procureur pour savoir s'il penche en faveur du procès ou du non-lieu.
Voilà, reportage de Rémi Brancato avec les familles de victimes de ce vol Air France 447. En ligne avec nous, Maître Alain Jakubowicz, bonjour.
Bonjour.
Maître, vous êtes avocat de cette association que préside Daniel Lamy. Quand y aura-t-il un procès pour faire la lumière sur cette catastrophe du vol Air France Rio-Paris ?
La première question est de savoir s'il y aura un procès. Et nous le saurons relativement rapidement, puisque nous aurons les réquisitions du procureur de la République, comme vous le rappeliez dans votre reportage, vraisemblablement au cours du mois de juin. C'est-à-dire que le procureur de la République aura à dire si, selon lui, les éléments sont réunis pour qu'un procès se tienne. Ensuite, le juge d'instruction aura à prendre une décision de renvoi ou non de Air France et d'Airbus, qui sont les deux personnes morales qui sont actuellement mises en examen devant le tribunal correctionnel de Paris. Pour les familles de victimes et pour l'association Entraide et Solidarité, évidemment, cela est indispensable.
Maître Jakubowicz, vous connaissez parfaitement ce dossier. Selon vous, qui est responsable ? Airbus, Air France, les deux entreprises, vous le rappeliez, sont mises en examen depuis 2011 pour homicide involontaire.
Vous savez, les choses ne sont jamais aussi simples dans une catastrophe de ce type. Et il n'y a jamais ou rarement de responsabilité exclusive. En revanche, ce que nous savons, c'est que c'est un avion Airbus qui est tombé et que cet appareil était un appareil Air France. Et tous les éléments du dossier montrent qu'il y a une part de responsabilité chez Airbus dans la conception même de l'avion, et notamment de ces fameuses sondes pitot qui étaient utilisées, qui ont givré et qui empêchaient le pilote d'avoir tous les éléments de contrôle qui étaient indispensables. Et puis il y a également une responsabilité chez Air France qui tient notamment à la formation des pilotes dans ce type de situation. Toutes les expertises, y compris la dernière d'ailleurs, qui pour nous est un véritable scandale, mais tous ces éléments montrent qu'il y a une responsabilité à la fois chez Air France et chez Airbus.
Donc pour vous, Maître Alain Jakubowicz, les pilotes ne sont pas en cause, ils ne comprenaient pas ce qui se passait à bord de l'avion. L'avion a chuté, il est tombé comme une pierre en 4 minutes et demie après la défaillance de ces sondes pitot.
Je vais vous dire, même s'il y avait une part de responsabilité de la part des pilotes, vous savez, cette part de responsabilité pour nous, elle doit être prévue par les compagnies aériennes et par les fabricants d'avions. Vous savez, la défaillance humaine, elle est toujours possible. Nous montons tous dans des avions. Nous savons tous que les pilotes sont des hommes qui sont faillibles et qui peuvent éventuellement commettre des erreurs. Ce que nous attendons de ceux qui fabriquent les avions, ce que nous attendons des compagnies aériennes, c'est que toutes les mesures soient prises pour pallier les éventuelles défaillances humaines. C'est ça la réalité du dossier. Et non seulement cela n'était pas le cas, mais il y avait des problèmes majeurs dans la conception de l'avion. Vous savez, aujourd'hui, un avion, ça se pilote pas comme une voiture. Tout est électronique, tout est prévu par l'avionneur, par celui qui a fabriqué l'avion. Et en fait, le pilote, je dirais pas qu'il sert à rien, mais en fait, il met en action des systèmes informatiques qui sont de très haut niveau et les pilotes en la circonstance, pour nous, ne pouvaient absolument pas éviter la catastrophe. La raison se trouve chez Airbus et chez Air France.
Maître Jakubowicz, rapidement, pourquoi la procédure est si longue ?
Écoutez, comme vous le rappeliez, il a déjà fallu 2 ans pour retrouver l'appareil et les sondes Pitot. Et là, je veux saluer le travail de l'association Entraide et Solidarité. Si vous vous en souvenez, les pouvoirs publics voulaient arrêter les recherches. On a été obligé vraiment de faire des manifestations, d'insister pour que l'on poursuive les recherches et trouver enfin ces sondes Pitot et la carlingue. 2 ans de perdu. Ensuite, des expertises, contre-expertises, une expertise qui a été annulée pour des raisons procédurales. Malheureusement, dans les accidents collectifs et les catastrophes, notamment les catastrophes aériennes, c'est malheureusement la durée normale, qui en soi est évidemment totalement anormale pour les familles de victimes.
Merci Maître Alain Jakubowicz, avocat d'une association de familles de victimes de ce vol Air France 447, le Rio-Paris qui s'est abîmé en mer il y a 10 ans, le 1er juin 2009. La superstar du PSG de la Seleção brésilienne Neymar a contre-attaqué dès aujourd'hui après la plainte pour viol déposée par une jeune femme à Sao Paulo. Les faits présumés auraient eu lieu à Paris dans un hôtel de luxe à la mi-mai. Mathilde Dehimi, bonjour.
Bonjour Pierre.
Neymar clame son innocence et dénonce un piège.
Oui, une jeune femme avec laquelle il entretenait à minima une relation épistolaire depuis mars. Pour sa défense, Neymar a publié cette nuit l'ensemble de cette prose, photo coquine à l'appui. Un long échange qui conduit à une invitation de la jeune femme à le retrouver 3 jours au Sofitel à Paris. Dans sa vidéo, Neymar assure tomber des nues.
Je suis accusé de viol. C'est un mot lourd qui est très fort. Une chose grave. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. J'ai été pris au dépourvu et c'est très mauvais. C'est bien triste d'entendre ça, car qui me connaît sait que ce n'est pas ma nature. Je ne ferai jamais une chose pareille.
Dans sa déposition, la jeune femme explique avoir retrouvé à l'hôtel un Neymar en état d'ébriété, agressif, la forçant à avoir une relation sexuelle non consentie. Voici la version de la star brésilienne.
Ce qui s'est passé ce jour-là était une relation entre un homme et une femme, entre 4 murs, comme ce qui se passe avec chaque couple. Et le lendemain, il ne s'est rien passé. Nous avons continué à échanger des messages, elle m'a demandé un souvenir pour son fils, et j'allais le faire, mais maintenant, j'ai été pris par surprise.
Les messages révélés par Neymar s'arrêtent au 16 mai, lendemain de leur rencontre. La jeune femme serait ensuite rentrée au Brésil, avant de porter plainte 15 jours plus tard. Les proches de Neymar parlent d'une tentative d'extorsion ces derniers jours, un piège qui me servira de leçon, estime le footballeur dans sa vidéo.
Mathilde Dehimi sur ses accusations visant Neymar. Direction Roland-Garros, maintenant le tennis. Federer est sur le court face à l'Argentin, Leonardo Maier, le 68e joueur mondial. Jean-Pierre Blimaud dans les tribunes. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Pierre.
Où en est ce match ?
Eh bien, le match n'a pas commencé. Puisque pour le moment, il y a toujours un match féminin qui se déroule et qui s'éternise entre Petra Martic et Kaya Kanepi. Un set partout entre les deux joueuses. Martic a peut-être pris une option, mais c'est la tombeuse de Kristina Mladenovic, une autre française. En tout cas, Roger Federer, dans quelques minutes, sera sur le court central. Et c'est toujours un événement cette année de voir Roger Federer, numéro 3 mondial, déjà vainqueur ici une seule fois en 2009 sur ce stade de Roland-Garros où il n'est pas venu les 3 dernières années. Il va affronter, vous l'avez dit, Leonardo Maier, un joueur argentin bien moins classé que lui, puisqu'il est seulement 68e, tombeur de Nicolas Mahut il y a 2 jours au tour précédent. Et pour Roger Federer, l'objectif c'est de se qualifier pour les quarts de finale, où il retrouvera peut-être Stan Wawrinka, vainqueur en 2015. Autre monstre sacré juste derrière sur le central, ce sera Rafael Nadal. Et puis n'oublions pas Pierre qu'aujourd'hui, eh bien Benoît Paire va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour un quart de finale de Grand Chelem. Ce sera face au japonais Nishikori en fin de journée sur le court Suzanne Lenglen.
Jean-Pierre Blimaud en direct à Roland-Garros. Encore quelques heures au calme et les 47 skippers alignés pour la solitaire du Figaro vont prendre le large, le départ de la 50e édition. Ce sera à 16h25 depuis Pornichet à l'embouchure de la Loire pour 1 millier de kilomètres de course jusqu'en Irlande. La particularité de cette solitaire du Figaro, c'est qu'elle se dispute en 4 étapes de 3 à 4 jours en mer, un format qui laisse très peu de temps au sommeil et au repos. La clé de la réussite, c'est de pouvoir récupérer pour ne pas finir épuisé. Reportage Jérôme Val.
La réussite d'une course tient parfois à un détail, comme en 1998, l'une des trois victoires de Michel Desjoyeaux.
On met 100 heures pour faire la première étape pour monter jusqu'à Auss, à côté de Dublin. Je suis arrivé à minuit, je suis allé me coucher tout de suite pour me reposer vite fait. Et à 8h du matin, je reviens sur les pontons après mon petit déjeuner et le cinquième bateau arrivait. Et là, tu te dis, allez, banco, parce que j'ai déjà une nuit d'avance sur 90% des concurrents.
Quelques heures de sommeil en plus, c'est un capital précieux dans ce marathon en mer où il faut enchaîner 4 sprints et sur un bateau nouvelle génération très exigeant, Yann Eliès, l'un des plus expérimentés de la flotte.
Une grosse inconnue pour moi et je pense pour l'ensemble des marins, c'est comment on va réussir à encaisser 4 étapes d'affilée sur ce bateau. À chaque fois que moi j'ai fini les courses, j'étais cassé, fatigué après 2-3 jours de mer et donc j'espère tenir le coup jusqu'au bout.
Peu de sommeil en mer et peu de repos à terre, tout est une question d'équilibre, explique Martin Lepape qui court sa 5e solitaire.
C'est vrai que l'erreur qu'on peut faire sur, en mer en tout cas, c'est de ne pas assez dormir et d'être à fond tout le temps et à un moment le corps il dit stop, et à ce moment-là, bah, on manque de lucidité et c'est là où on peut perdre beaucoup, quoi. Plus on accumule d'expérience là-dessus, plus on sait gérer ça.
Ces derniers jours, les concurrents ont au moins mis à profit leur temps à terre pour faire des siestes. Nantes, Jérôme Val, France Inter.
Et c'est la fin de ce journal.